Donne la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Mardi 23 septembre 2014, Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, chez Rubin Dorcil et Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, les États-Unis et leurs alliés lancent une campagne de bombardement en Syrie contre les djihadistes de l'État islamique.
Sommet sur le climat à New York, le secrétaire général de l'ONU appelle les nations du monde à s'engager sur une nouvelle voie dans la lutte contre les changements climatiques.
Épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé craint une croissance explosive et parle de 200 000 cas possibles, de 20 000 cas possibles d'ici novembre.
Crise centrafricaine, le secrétaire général de l'ONU souhaite un processus politique inclusif dirigé par les centrafricains eux-mêmes. Ban Ki-moon a rencontré Catherine Samba-Panza à New York en marge de l'Assemblée générale.
Voilà, nous aurons aussi les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Le président Barack Obama a annoncé que les États-Unis et leurs partenaires de la coalition ont lancé des raids aériens contre les militants islamistes en Syrie dans un effort pour éliminer les sanctuaires des terroristes. Des précisions avec Lionel Gaïma.
Parlant à la Maison Blanche avant son départ pour New York et ses réunions à l'ONU, M. Obama a expliqué que ces frappes visaient des membres endurcis d'Al-Qaïda, ceux du groupe Khorasan qui planifiait une attaque imminente contre les États-Unis. Il doit être clair que pour quiconque complote contre l'Amérique et tente de s'en prendre à des Américains, que nous ne tolérerons pas des sanctuaires pour terroristes qui menaceront notre peuple. Ces frappes incluaient d'autres cibles. Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis ont appuyé cette campagne aérienne qui a endommagé ou détruit des camps d'entraînement des militants de l'État islamique, ainsi que le quartier général et un centre financier du groupe. Pour M. Obama, ces cinq nations arabes sont des alliés dans la lutte contre ces militants.
La strength of this coalition makes it clear.
La force de cette coalition démontre clairement qu'il ne s'agit pas simplement du combat de l'Amérique, a ajouté M. Obama. Selon un groupe d'observateurs, ces dernières frappes aériennes ont tué 120 militants islamiques en Syrie.
Au Yémen, le chef de la rébellion chiite, Abdelmalek al-Houthi, a crié victoire ce mardi dans un discours télévisé, alors que ses miliciens contrôlent quasiment toute la capitale, Sanaa, précision de Timothée Donangmaï.
Dans un discours retransmis sur des écrans géants à Sanaa, Abdelmalek al-Houthi s'est posé en rassembleur, assurant que la victoire de son mouvement allait ouvrir une nouvelle ère fondée sur la coopération et l'entraide entre yéménites. Il s'agit du premier discours du chef des Zaïdites, basé à Saada dans le nord du pays, depuis la prise de Sanaa et la signature dimanche d'un accord de paix parrainé par l'ONU. L'accord prévoit la formation d'un nouveau gouvernement. Les partisans de Houthi se sont emparés dimanche de la plupart des bâtiments publics et des bases militaires stratégiques dans la capitale. Le chef militant s'est adressé à ses adversaires du parti sunnite Al-Isla ainsi qu'au mouvement du Yémen du Sud aux visées séparatistes, affirmant s'interdire de mener une politique d'exclusion ou de règlement de compte envers quiconque. Mais les Houthis ont pillé les habitations de leurs adversaires et ont une très forte présence militaire dans la capitale. Des semaines d'affrontements à Sanaa ont fait des centaines de morts. Mohamed Al-Bacha, un porte-parole du gouvernement yéménite à Washington, a dit à la Voix de l'Amérique que le président Abed Rabu Mansour Hadi avait opté pour un accord de paix afin d'éviter un conflit étendu qui aurait fait de nombreuses autres victimes.
Le sommet de l'ONU sur les changements climatiques a débuté aujourd'hui à New York par un appel du secrétaire général Ban Ki-moon à une nouvelle approche mondiale pour protéger l'environnement contre les émissions de gaz à effet de serre.
Climate change threatens hard-won peace, prosperity, opportunity.
Les changements climatiques menacent la prospérité et les chances de succès que nous avons gagnées de haute lutte pour des milliards de gens aujourd'hui. Maintenant même, il nous faut engager le monde sur une nouvelle voie, a dit Ban Ki-moon.
Des dirigeants de 125 nations prennent part à ce sommet d'une journée qui devrait servir de prélude à la conférence de Paris prévue fin 2015.
Dans l'est de l'Ukraine, les combattants séparatistes ont commencé le retrait de leur artillerie lourde de la ligne de front, telle que stipulée dans le plan de paix, selon le premier ministre de la République autoproclamée de Donetsk, Alexander Zakharchenko. Ce retrait est en réponse à une action similaire des forces ukrainiennes. Le plan de paix prévoit la création d'une zone tampon de 30 km entre les belligérants. La semaine dernière, le Parlement ukrainien a adopté une loi accordant une large autonomie aux régions séparatistes de Donetsk et Lugansk.
Le président afghan Hamid Karzai a déclaré que les États-Unis ne veulent pas la paix avec son pays. Dans un discours d'adieu aux fonctionnaires de l'État à Kaboul, M. Karzai a critiqué le gouvernement américain et les services de renseignement pakistanais qu'il accuse d'ingérence en Afghanistan. La paix et la stabilité du pays sont entre leurs mains, a-t-il dit. Hamid Karzai est allé jusqu'à affirmer que la guerre dirigée par Washington en Afghanistan depuis l'année 2001 ne vise que des intérêts américains. Lundi, Ashraf Ghani lui succédera suite à un accord avec le perdant du second tour, Abdullah Abdullah, pour le partage du pouvoir.
Reprise aujourd'hui au Caire des pourparlers israélo-palestiniens en vue de consolider l'accord de cessez-le-feu conclu le mois dernier. Cet accord a mis fin à 50 jours d'hostilité entre l'armée palestinienne et les militants du Hamas. Plus de 2100 Palestiniens et 72 Israéliens sont morts durant cette confrontation.
Un beau-fils d'Osama Ben Laden a écopé de la prison à vie pour son rôle en tant que porte-parole d'Al-Qaïda après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3000 morts aux États-Unis. La sentence a été prononcée ce mardi à New York contre Souleyman Abu Ghaith, un Koweïtien âgé de 48 ans. Un tribunal l'avait trouvé coupable en mars dernier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé a demandé ce mardi un renforcement des mesures de lutte contre la fièvre à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Si rien n'est fait, avertit l'OMS, la maladie pourrait toucher 20 000 personnes d'ici à novembre, trois fois plus qu'à ce jour. Jacques Aristide.
L'épidémie a déjà tué 2811 personnes des 5864 cas rapportés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, d'après le dernier bilan établi hier.
One of the key messages that we want to get across is that we are now in the third explosive phase of growth.
Nous sommes dans la troisième vague d'accroissement de l'épidémie, affirme Christopher Dye de l'OMS, et de prévenir que si rien ne vient freiner sa progression, ce ne seront plus des centaines de cas par semaine, mais des milliers qui surviendront. Pour lui, les moyens pour l'arrêter sont connus, mesures de contrôle et de prévention, protection précoce des malades et des soignants, et détection des personnes en contact avec quelqu'un d'infecté. Mais d'autres chiffres encore plus alarmants, dans un rapport publié aujourd'hui, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, qui ont analysé les données du Liberia et de la Sierra Leone, affirment que le nombre de cas d'Ebola pourrait atteindre jusqu'à 1,4 million d'ici au 20 janvier prochain. Sur le plan de la recherche, l'ONG Wellcome Trust a annoncé ce mardi un don de 5,2 millions de dollars pour les essais des médicaments expérimentaux contre Ebola en Afrique de l'Ouest, de temps qu'il n'y a pas encore de vaccin homologué.
Lors de discussions à New York avec la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza, le secrétaire général de l'ONU a souligné l'importance cruciale d'un processus politique inclusif dirigé par les centrafricains eux-mêmes. Ban Ki-moon a souligné lundi qu'une entente globale formelle était nécessaire pour entreprendre des réformes essentielles de gouvernance, y compris en ce qui concerne le secteur de la sécurité et le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. Encourageant la poursuite des efforts dans la campagne de sensibilisation sur la prévention de la violence sexuelle liée au conflit en Centrafrique, M. Ban a appelé la présidente de transition à appuyer pleinement la mise en œuvre des mesures d'urgence prescrites par la résolution 2149 du Conseil de sécurité.
Le ministère allemand des Affaires étrangères a annoncé la libération d'un journaliste germano-américain, Michael Scott Moore, qui était retenu en otage en Somalie depuis plus de deux ans. Un officiel de la région de Moudoug a confirmé à la Voix de l'Amérique qu'il a été libéré ce mardi dans la ville de Galkayo, où il avait été enlevé en janvier 2012. Le journaliste et écrivain a travaillé pour l'hebdomadaire Spiegel avant de se rendre en Somalie pour rédiger un livre sur la piraterie. Il est arrivé à Mogadiscio où il devait être examiné par des médecins, écrit le journal sur sa version en ligne. Nous n'avons jamais perdu espoir et nous sommes très heureux que ce cauchemar soit enfin terminé, a commenté le rédacteur en chef de Spiegel, Wolfgang Buchner. Le journal a précisé que les autorités allemandes et américaines avaient durement travaillé à sa libération, mais nous n'en savons pas plus.
En Tunisie, 70 personnes ont déposé un dossier de candidature pour le premier tour de la présidentielle prévu le 23 novembre prochain, a indiqué l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'organisme chargé d'organiser le scrutin doit examiner leur conformité avant d'annoncer la liste des candidats, indique l'AFP. Un des fils du candidat, Abderraouf Ayadi, le secrétaire général du mouvement dissident Wafa, a été placé en garde à vue hier. Selon le journal en ligne Business News, citant diverses sources, il aurait été arrêté dans la voiture d'un ami en possession d'un drapeau salafiste. Selon la version officielle, les deux jeunes hommes auraient célébré la mort de soldats tunisiens tués dans un attentat. Maître Ayadi a dénoncé cette situation, disant qu'il s'agissait d'une campagne contre sa candidature.
Selon l'ONG américaine de protection de la faune Wildlife Conservation Society, le braconnage des éléphants au Mozambique prend une ampleur sans précédent, indique l'agence France-Presse. Dans l'extrême nord du pays, 22 éléphants ont été tués en deux semaines, début septembre, dans le parc national de Niassa, a indiqué à Maputo Carlos Pajera, un membre de l'organisation new-yorkaise. Voilà pour le journal. Bientôt 18h42 temps universel et 14h42 ici à Washington. Chez Robin Dorsil et Nathalie Barge en votre compagnie. Restez branchés pour quelques dossiers de la journée. Monrovia, la capitale du Libéria, l'odeur de chlore est partout, la situation reste tendue, disent les résidents, mais il y a un sentiment croissant d'optimisme que l'épidémie d'Ebola peut être enrayée dans le pays. Cet optimisme est renforcé par l'arrivée du premier contingent militaire américain sur le terrain. Washington a en effet promis 3000 soldats pour aider à la logistique médicale. Avec Issia Kaba, un coup d'œil sur la vie à Monrovia.
Il est environ midi à Monrovia. Jessie Toe est assise sur sa charrette en bois, sous un parapluie, tout en mangeant du riz au safran avec du poisson frais de l'océan tout proche. La jeune vendeuse de rue, mère de deux enfants, vend du dentifrice, du savon et des tissus à quelques dizaines de mètres du ministère des Finances. Jessie nous dit que les affaires ne vont pas bien ces jours-ci.
Eh bien, la vie à Monrovia est très difficile. Les gens de la rue ont des difficultés. Les affaires ne marchent pas. La plupart des ministères sont fermés. Pas de travail.
Cette jeune femme gagne environ 18 dollars par mois. Avant la crise de l'Ebola, son revenu était près de 4 fois plus. Autre problème, les écoles sont fermées. Donc ses enfants doivent rester à la maison. Ils n'ont rien à faire. 6 mois après la pire épidémie d'Ebola dans le monde, Jessie espère que les 3000 soldats américains peuvent apporter l'aide que le gouvernement libérien n'a pas pu fournir jusqu'à présent.
Nous prions pour que les troupes américaines viennent et qu'elles soient en mesure d'aider nos sœurs et frères libériens, parce qu'Ebola tue beaucoup de gens.
Beaucoup parmi ceux que la VOA a joints pour ce reportage partagent son optimisme. Entre autres choses, les États-Unis se sont engagés à fournir une aide de 175 millions de dollars et construire 17 nouveaux établissements de soins de santé d'une capacité de 100 lits chacun dans la région. Les Américains vont aussi former jusqu'à 500 agents de santé par semaine au Libéria. Plus de 100 militaires américains doivent être en Afrique de l'Ouest d'ici la fin de cette semaine et d'autres vont suivre dans les prochains jours. La présidente Ellen Johnson Sirleaf qualifie cette assistance de moment important dans la lutte contre le virus Ebola. Elle a promis qu'elle ne se reposera pas jusqu'à ce que la maladie soit éradiquée. Mais pour Matthew Sandiki, un travailleur communautaire de 49 ans, l'aide américaine n'est qu'un point de départ. Nous demandons également à d'autres pays, l'Allemagne par exemple, de se joindre à l'Amérique pour nous aider à combattre ce virus Ebola. Parce que nous ne pouvons pas le faire seuls. Notre système de santé est totalement détruit. Après l'annonce faite par le président Obama sur l'envoi de troupes à vocation humanitaire au Libéria, le Conseil de sécurité de l'ONU a lancé à toutes les nations un appel à fournir une assistance, disant qu'Ebola est une menace à la sécurité internationale. L'Organisation des Nations Unies est en train de construire un nouveau centre de transit pour recevoir les cargaisons d'équipements dont le Libéria a besoin pour contenir la crise.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum revient ce jeudi sur l'épidémie d'Ebola qui pourrait devenir endémique en Afrique de l'Ouest d'après l'OMS. Quels sont les obstacles à surmonter dans la lutte anti-Ebola? Quel impact sur les pays affectés? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
En République centrafricaine, l'exportation du diamant est interdite depuis l'année dernière, quand le pays a été suspendu du processus de Kimberley à cause de la guerre. Selon les autorités, cette suspension qui a favorisé le développement des réseaux frauduleux crée un énorme manque à gagner pour le gouvernement de la transition. Le point avec notre envoyé spécial à Bangui, Bagasikoura.
La RCA a été suspendue en mai 2013 du processus de Kimberley, un mécanisme mis en place pour contrôler le diamant des zones de guerre. Joseph Agbo est le ministre des Mines de la RCA.
On comprend le mobile qui, à l'époque, avait présidé à cet embargo sur l'exportation de nos diamants. Seulement, nous disons aujourd'hui que loin de nuire à ceux qui sont venus perturber l'exportation de nos diamants, cet embargo a vraiment eu des effets très, très, très pervers.
Le ministre des Mines explique qu'en temps normal, c'est un secteur qui représente à peu près 20% des recettes du budget de l'État et 51% des recettes à l'exportation du pays. Selon Joseph Agbo, la crise sociopolitique que traverse la République centrafricaine depuis 2 ans a énormément perturbé le secteur des mines.
Puisque les bureaux d'achat n'exportent plus, les collecteurs qui achètent ces produits, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils s'investissent dans la fraude. Et donc, la suspension du processus a eu pour effet de drainer le plus gros lot de nos collecteurs vers la fraude.
Une situation facilitée par le fait que sur le terrain, les groupes armés, essentiellement les anti-Balaka et les Seleka, se sont emparés des mines du pays qu'ils exploitent. Les produits sont exportés vers le marché international à travers les pays voisins, comme l'explique Vianney Victorien Kouyadangba, un exécuteur évaluateur en diamants et or.
L'État est en train de perdre beaucoup d'argent avec des trafiquants qui sortent illicitement avec des diamants qui sont exploités dans ces zones minières, qui sortent par le Cameroun et par le Tchad, alors que pour un régime de transition, on a besoin des entrées dans le trésor public.
Pour le ministre des Mines, les conséquences de l'embargo sur le fonctionnement du gouvernement sont énormes.
Nous, en tant que ministère des Mines aujourd'hui, nous sommes condamnés à l'inertie progressivement parce que nous, on tournait à partir d'une petite subvention qui nous parvenait des recettes d'exportation du diamant. Dans la mesure où ces recettes-là sont bloquées, donc progressivement, le ministère des Mines va être condamné à l'inertie. On n'aura plus demain les moyens de notre intervention au vieux secteur. Voilà, c'est tout ça là qui crée une situation de sinistre et les populations en souffrent énormément.
Le gouvernement centrafricain espère que le déploiement le 15 septembre dernier des casques bleus des Nations Unies va permettre la reprise en main des mines de Bangui. Bagasikoura pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Cap maintenant sur le Burkina Faso. Pour trouver la solution à la crise sociopolitique qui divise le pays, le président Blaise Compaoré propose à la majorité et à l'opposition un dialogue direct sous sa propre supervision. Tel est le message clé donné ce mardi après la rencontre entre le président, la majorité et l'opposition. Reportage, Zoumana Wonogo.
Depuis l'annonce la semaine dernière des rencontres entre Blaise Compaoré, sa majorité et l'opposition, les Burkinabés sont restés suspendus à cette date du mardi 23 septembre en se perdant en conjectures. Que va déclarer Blaise Compaoré? Telle était la question. Eh bien, le suspense est levé. Suivant Assimi Kouanda, le secrétaire exécutif du parti de Blaise Compaoré.
Nous avons répondu à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui a convié les grand regroupement au niveau du champ politique national à une initiative, proposer une initiative de cadre d'échange, de concertation entre les formations politiques. Et nous avons naturellement salué cette idée et ce cadre proposé parce que nos formations de la majorité, nous avons toujours été disponible et ouvert pour le dialogue.
L'opposition est partante pour le cadre du dialogue, mais tout est négociable sauf la modification de la Constitution en son article 37 et la mise en place du Sénat. Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, le dit. On écoute.
Sur le principe, fidèle à notre manière de faire la politique et aux valeurs auxquelles nous croyons, l'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. C'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Cyril et Nathalie Barge en votre compagnie.
Selon un nouveau rapport de l'African Child Policy Forum, les enfants africains sont confrontés à des niveaux anormalement élevés de violence. L'étude appelle à une action mieux coordonnée pour prévenir la violence contre les enfants. Le point avec Michel Joseph.
Le document précise que les enfants africains sont soumis à des niveaux extrêmement élevés de violence psychologique, physique et sexuelle. Une tragédie que les lois et les politiques actuellement en vigueur n'ont pas été en mesure de résoudre. Théophane Nikiema, directeur de l'African Child Policy Forum, évoque la nécessité d'une nouvelle approche.
There has not been a lot of focus on the prevention side when it comes to child protection.
En ce qui concerne la protection de l'enfant, on a guère mis l'accent sur la prévention. Et c'est pourquoi nous préconisons aux États de renforcer cette approche qui prévoit qu'on se focalise sur la prévention, la prise de mesures de prévention, mais aussi une réponse coordonnée en matière de protection. Et cette réponse coordonnée inclut l'État, les familles et toutes les parties prenantes.
Le rapport combine 75 études et enquêtes menées en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Mali, au Maroc, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Il montre que dans certains pays, comme le Mali et la Zambie, la plupart des actes de violence contre les enfants viennent de membres de leur famille. Mais dans d'autres pays, comme le Togo et la Sierra Leone, la plupart des violences physiques sont infligées par des professeurs et camarades de classe. La violence sexuelle contre les filles est particulièrement élevée presque partout, poursuit le document, à la maison, dans la communauté au sens large et dans les écoles. Dans les zones de conflit, les filles sont encore plus vulnérables à ces violences, dont les viols. À nouveau, M. Nikiema.
Parmi ces violences, le tourisme sexuel qui se fait de différentes façons, à travers l'Internet et autres méthodes. Il est nécessaire que les gouvernements fassent davantage attention aux abus sexuels et à l'exploitation sexuelle, ou même au fait que les enfants sont victimes de la traite à l'étranger à des fins sexuelles.
Parmi les pays où les enfants sont particulièrement ciblés par les prédateurs sexuels, le Kenya, le Sénégal, le Maroc et l'Afrique du Sud. L'étude qui a été réalisée en coopération avec l'Union africaine a été présentée vendredi à la commission de l'Union africaine qui a été invitée à renforcer les politiques mettant l'accent sur la prévention de la violence contre les enfants africains.
Et pour notre page sport, nous accueillons en studio Timothée Donangmaï. Salut Timothée.
Salut Chérubin.
La Fédération nigériane de foot choisira son nouveau président mardi.
Et oui, ces élections seront supervisées par le président sortant de la Fédération, Aminu Maigari, évincé à deux reprises au cours des récents mois avant d'être rétabli chaque fois sur intervention de la FIFA. Le Nigeria, champion d'Afrique, a été suspendu des compétitions internationales pendant 9 jours le mois dernier pour ingérence du gouvernement dans les affaires de sa fédération. Cette dernière promet un processus électoral crédible et transparent cette fois-ci.
18 candidats en lice pour prendre les rênes des Black Stars du Ghana.
Parmi eux, un seul Ghanéen, Kim Grant, ancien joueur du club anglais de Charlton. Les autres candidats, le Serbe Milovan Rajevac, qui avait déjà entraîné le Ghana de 2008 à 2010 le menant à une qualification en quart de finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. La Fédération ghanéenne de football a remercié le 12 septembre le Ghanéen Kwesi Appiah qui s'occupait des Black Stars depuis 2012.
Vive controverse, Timothée, dans le monde du tennis espagnol suite aux critiques du coach de Rafael Nadal contre la toute nouvelle capitaine de l'équipe espagnole en Coupe Davis, Gala León.
Ancienne joueuse professionnelle, León est la première femme à être désignée à la tête de l'équipe espagnole en Coupe Davis. Elle remplace Carlos Moya. Il est préférable d'avoir quelqu'un ayant une expérience en tennis homme, a déclaré Tony Nadal, coach et oncle de Rafael Nadal. Un avis que ne partage pas Andy Murray, champion de Wimbledon et de l'Open des États-Unis. Murray, qui est entraîné par la Française Amélie Mauresmo, a adressé ses félicitations à León par Twitter. Le vice-président de la Fédération internationale de tennis, Juan Marguez, a lui aussi félicité Gala León.
Et en quelques secondes, Timothée Donangmaï, parlez-nous de ces deux équipes qui se préparent à jouer un match de cricket sur le mont Kilimanjaro.
Et les joueurs sont venus d'Angleterre, d'Australie, du Canada, d'Afrique du Sud et du Kenya. Ils ont entamé une ascension de 8 jours sur les flancs du Kilimanjaro. Leur destination, un cratère recouvert de glace, juste en dessous du sommet à 5785 mètres. Ils doivent arriver vendredi et leur espoir est de battre le précédent record d'un match joué au camp de base de l'Everest au Népal à 5165 mètres.
Merci Timothée.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, Nathalie Barge et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Mais moi, je voudrais revenir sur le camp de base de la Napurna parce que j'y suis allée. Bon. J'y suis allée, mais j'ai pas joué au cricket et puis je vois pas comment on peut faire pour jouer au cricket parce que c'est vrai qu'on a déjà à cette altitude-là, on a beaucoup de mal à respirer. Alors Roger, on parle musique.
Le Roger qui ne revient pas du Kilimanjaro.
J'espère que je vais changer un peu cette conversation-là. Mais salut Nathalie, salut Gabi. Le cinquième album de Maroon 5 est arrivé, on le sait très bien, après le vif succès rencontré par Overexpose. Que vaut le nouveau disque du groupe mariant les courants des tous bords, hein, et n'hésitons pas à emprunter à la pop, au R&B, au rock et à l'électro. La réponse, Nathalie, c'est dans Maps. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations.
C'est une histoire très triste à pleurer sur la culpabilité. Hein. Roger Five, le cinquième album de Maroon 5, souligne l'orientation très pop de la bande qui a une nouvelle fois collaboré avec les producteurs Benny Blanco, Max Martin, Ryan Tedder, après le succès d'Overexpose dans 2012.
Exactement, 2012, et ce sont des grands producteurs. Hein. Et Adam Levine et ses acolytes ont confirmé leur popularité avec ce single Maps, que nous sommes en train de suivre en ce moment, radiophonique à souhait, avec ses riffs de guitare et son refrain exaltant, avant de dévoiler It Was Always You, plus nocturne, hein, Nathalie. Sans perdre le temps, Maroon 5 a lancé le deuxième single officiel, Animals.
Ça, moi j'ai
écouter ça prochainement.
Moi j'ai un penchant pour Animals. Je l'ai regardé tout à l'heure.
Ben voilà.
Oui, la vidéo, c'est très joli. Ouais.
Super.
Ben c'est plus gay, quoi.
Ben exactement. C'est... Ben pour la prochaine fois, on va faire écouter à nos auditeurs.
Mais ça me rappelle Police. Et moi, je me souviens du chanteur Police. J'étais allé à un concert.
Ça te rappelle toujours quelque chose.
Oui,
ça. Mais t'as raison, en fait.
Écoute, j'étais allé à un concert de Police à Lyon, en France. Ouais. J'étais très jeune, c'est les années 80. Et ma maman m'avait acheté une combinaison blanche que j'avais teinte en gris. Okay. J'avais la combinaison de Police. Et j'étais
racontez-nous l'histoire un peu plus tard, Nathalie. Si jeune et tant d'expérience.
Merci, Roger.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Mise en autre part à Lionel Gaïma avec l'assistance technique de Bill Barber à la console. À la présentation, Chérubin Dorcil
et Nathalie Barge.